Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 9. Cyprien Sini.
Cyprien et toute l'équipe évidemment qui s'installe dans RTL Soir, c'est vendredi soir, on défait le monde. Vous commentez, vous réagissez, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, le compte Twitter, bien sûr, la page Facebook de l'émission. Ça se passe avec Cyprien, avec Céline Landreau, avec Greg Omanette, avec Laurent Tessier, tout à l'heure un guest américain, l'un de nos correspondants pour toute l'actualité. Soyez les bienvenus, c'est un plaisir de vous accompagner, on est ensemble jusqu'à 20h. Voici avec Cyprien le sommaire.
Enquête sur les cours d'EMC, l'éducation morale et civique, la matière qu'enseignait Samuel Paty quand il a montré les caricatures de Mahomet. Mais qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes dans ces cours? Vous comprendrez tout. Des vaccins anti-Covid partout et nulle part à la fois. Les Russes et les Chinois annoncent des vaccinations de masse. L'Europe est toujours en test. On vous aidera à y voir plus clair sur la situation. Dans Défait le Monde, vous découvrirez le loser, le grand perdant de la semaine de Céline Landreau. Et ce soir, un loser cruel, un loser qui nous a bien fait rire, mais on n'aimerait pas être à sa place.
Oui, petit rappel de service, une visioconférence, ça se fait plutôt habillé.
Le droit de suite, le billet retour made in USA ce soir. Souvenez-vous, cet été, alors que la situation sanitaire semblait s'apaiser en Europe, les États-Unis étaient submergés par le virus. Où en est l'Amérique? À 10 jours de l'élection présidentielle, on sera en direct de Phoenix, Arizona, avec un de nos correspondants, Lionel Gendron. Grâce à On défait le monde, vous brillerez pendant le couvre-feu avec Pelé, Lucky Luke et le changement d'heure. Et vous pourrez oublier vos soucis du quotidien et vous détendre dans un sublime 4 étoiles à Cannes en répondant à la question du jeu qui sera posée vers 19h40. Soyez bien attentifs. On défait le monde, saison 2, épisode 9.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde sur RTL.
Super cadeau tout à l'heure au cœur de l'émission, comme d'habitude, comme tous les vendredis soirs. On vous gâte et super cadeau, c'est le surf de la semaine avec Cyprien.
Et cette semaine, le gouvernement a lancé sa nouvelle appli anti-Covid qui s'appelle Tous Anti-Covid. J'espère que vous l'avez téléchargée, moi c'est le cas. Et alors, petit événement. Oui, le Premier ministre s'est enfin mis à jour, écoutez.
Et je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même.
Bravo. Bravo, chapeau, il a enfin réussi à télécharger une appli. Bon, en revanche, on se demande quand même comment il a fait, puisque pour se justifier de ne pas avoir téléchargé l'ancienne, il avait quand même expliqué...
J'ai pris un portable sécurisé, donc je n'ai pas téléchargé TéléCovid.
Eh oui, c'était la faute au portable sécurisé TéléCovid, tout ça. Il a dû changer de téléphone. Bref, en tout cas, cette semaine encore, les meilleurs experts, les plus au fait de la situation, les plus en pointe sur la pandémie, sont venus délivrer leur savoir sur les plateaux, comme le philosophe Michel Onfray sur CNews.
Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionne.
C'était juste l'année 2019.
C'était 2019, c'était l'année.
C'est ça.
Enfin, de toute façon, il y en a eu d'autres. Je crois que le Stras fait partie des Covid, si je comprends bien. Enfin.
Bon, alors là, c'est un festival. Alors, il n'y a rien qui va. Donc, pour Michel Onfray, on va tout reprendre depuis le début, quand même. Alors, déjà, première chose.
Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionne.
C'était juste l'année 2019.
C'était 2019, c'était l'année.
Là, rien à dire. Excellent recadrage de Laurence Ferrari qui est sur l'info. Juste 6 mois qu'on l'explique, le coup du 19, mais bon, il est passé à côté, Mich-Mich. Après, on continue.
Enfin, de toute façon, il y en a eu d'autres. Je crois que le Stras fait partie.
Hop, 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 hop. Non, alors, le Stras, ça marche pas. Le Stras, c'est ce qu'on met sur les robes ou sur les ongles pour sortir en boîte. Hein, genre Stras et paillettes pour que ça brille, quoi.
La base, c'est d'acheter des strass en cristal ou en verre. Ça, c'est vraiment la base de la base.
Voilà, merci. Le strass, c'est pour faire joli. La maladie, c'est le strass. Bon, allez, on continue.
Je crois que le strass fait partie des Covid, si je comprends bien. Enfin.
Bon, alors là, je crois que clairement...
Je n'avais rien compris.
Rien. Le SRAS fait partie des coronavirus. La famille, c'est coronavirus Covid. C'est la maladie. Bref, avec Michel Onfray sur le Covid, je crois que c'est très...
Feu vert.
Ah oui, voilà, voilà. Et pendant ce temps-là, sur RTL, cette semaine, c'était encore un festival de Star American, invité chez notre Alba Ventura National.
And now, the best Alba Ventura on RTL.
Oui, le défilé d'interview bilingue continue après...
Bonjour Bill Gates, good morning.
Bonjour, good morning Oliver Stone. Thank you very much.
Hier matin, c'était au tour de la nièce du président américain de passer sur le grill. To pass on the grill pain, comme on dit chez nous.
Bonjour, good morning Mary Trump.
Good morning.
Yes, good morning, Mary Trump. Bientôt, on va tous avoir des passeports américains, je vous le dis. Enfin, on devient notre champion de la semaine, oui, parce que vous le savez.
En France, on n'a pas de pétrole.
mais on a des idées.
Ah oui, ça a des idées, on en a. À l'image de cet automobiliste qui roulait tranquille à 249 km/h sur l'A20. Ouais, ça va vite, 249 km/h. Il se fait intercepter dans l'Indre hein, par les gendarmes. Et là, pour se justifier, il a quand même expliqué aux gendarmes que c'était pour arriver chez lui avant le couvre-feu. Et oui, le génie français est sans limite. Et rien que pour ça, vive-moi la semaine prochaine.
Vive-moi la semaine prochaine. Et juste pour le plaisir, on peut réécouter le jingle Alba Ventura ou pas ?
And now, the best Alba Ventura on RTL.
Alba, c'est vrai qu'il est magique.
Ah ouais. Comment, Greg ?
Je trouve qu'il est magique, ce jingle. Ah, mais vous savez qu'Alba nous écoute.
En plus.
Et vous savez qu'on se demande s'il n'y a pas une pointe de jalousie, Cyprien, de, que vous ne soyez pas invité parmi ses invités.
Ah bah
ses invités
bien.
Du monde entier. Et du coup, elle a un cadeau pour vous.
Oh.
Good evening, Cyprien Sini dans Un défi le monde.
Oh, formidable.
Formidable.
Ça rend bien.
Quelle chance.
Un cadeau comme ça. 19h22.
RTL Soir, on défait le monde.
Avec toute l'équipe, on défait le monde jusqu'à 20h. On vous accompagne bien sûr, vous commentez, vous réagissez. Compte Twitter, la page Facebook. On a Pascal, tiens, qui est au volant dans les Landes et qui nous écoute fidèlement en ce vendredi soir. On l'embrasse. La morale et le civisme à l'école, c'est la grosse info de la semaine.
Oui, puisque c'est dans le cadre de ce cours Éducation morale et civique, EMC, que Samuel Paty a montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Cette semaine, on a donc voulu mieux comprendre comment se construisaient ces cours d'EMC, ce qu'il y avait dedans, comment ils étaient élaborés. Alors d'abord, Céline, c'est quoi les EMC ?
Alors, c'est ce qui a remplacé d'une certaine manière les cours de morale que nos grands-parents ont eus à l'école primaire, ou encore ceux d'éducation civique que nous avons eus, nous, un peu plus jeunes au collège. L'enseignement morale et civique, c'est une matière enseignée du CP à la terminale et qui repose sur un triptyque : respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République et construire une culture civique, comme l'explique l'inspecteur général Jérôme Gronde, doyen du groupe Histoire-Géographie.
C'est un travail sur les valeurs et les principes de la République. Et c'est un travail qui se fait de façon assez active avec les élèves. On apprend à débattre, on essaye de les faire rentrer dans ce qu'on appelle le débat réglé. C'est un débat à propos duquel on s'informe et à propos duquel on apprend à confronter des points de vue et des arguments.
Et donc on y consacre une demi-heure par semaine en primaire, une heure dans le secondaire. Alors au collège, c'est souvent le professeur d'histoire-géographie qui s'en charge parce que l'EMC est évalué avec l'histoire-géo lors du brevet. Mais au lycée, ça peut aussi être enseigné par le professeur de philo, de sciences économiques et sociales ou de lettres. Et c'est évalué dans le cadre du contrôle continu.
Mais alors je comprends pas, c'est évalué comment ?
Alors c'est vrai qu'on peut pas donner facilement une note sur le respect d'autrui, par exemple. Mais on évalue plus facilement la connaissance de textes fondateurs comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la notion de laïcité, de liberté d'expression, de liberté de la presse. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que les caricatures avaient été montrées.
C'est-à-dire ?
Bah, la règle, c'est le programme. Il faut enseigner ces notions-là, mais chaque enseignant peut choisir son support pour le faire. Alors il y a bien sûr des manuels scolaires, des propositions qui sont faites par les académies, mais après chaque prof peut s'appuyer aussi sur les exemples de son choix.
Et ces sujets-là, la liberté d'expression notamment, c'est ce qui fait de cette matière un enseignement si sensible ?
Oui, la preuve, l'enseignement moral et civique, au départ, il ne devait commencer à être enseigné sous sa forme actuelle qu'en 2017, mais finalement, les élèves l'ont découvert dès 2016.
Il est rentré en vigueur un an plus tôt que prévu, parce qu'il y avait eu les attentats.
Parce que, comme l'explique Jérôme Grondeux, inspecteur général, après ces attentats qui ont endeuillé la France en 2015, il fallait insister sur ces règles de la République qui font le vivre ensemble dans notre pays et qui sont parfois contestées, comme ces derniers jours encore à Toulouse, avec la mise en examen d'une élève qui reprochait à une professeure d'avoir abordé en cours l'égalité entre femmes et hommes.
L'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte également contre l'homophobie, la transphobie, c'est des choses qui sont aussi abordées en enseignement moral et civique. Et effectivement, cet enseignement, il conduit à aborder souvent avec les élèves des questions qui sont des questions vives. L'école, elle est immergée dans une société et les tensions de la société peuvent rentrer dans l'école. Et effectivement, c'est ce qu'on voit avec le drame qui vient de se produire.
Des professeurs qui vont malheureusement avoir l'occasion de reprendre tous ces fondamentaux dès la rentrée en abordant le 2 novembre le drame de Conflans avec leurs élèves.
Voilà la grosse info de ce vendredi, la morale et le civisme à l'école, le décryptage de Céline Landreau. C'était complet, c'était parfait. 19h26, restez là. La première info pour briller au dîner, c'est dans un instant, c'est avec qui ?
Avec Céline, Luc et Luc.
Encore Céline ?
Bah oui. Allez. Elle garde la main.
Elle est forte, à tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
À condition de ne pas être plus de 6 à table, d'être rentré avant 21h, de bien porter son masque couvrant le nez et la bouche, sous peine d'une amende de 135 euros.
C'est sympa, les
minutes. Excellent. Je te promets, c'est la première de ce soir, donc avec Céline sur Lucky Luke.
Oui, je vais vous parler de l'actu BD du jour. Ouais. Vous savez, la sortie du nouveau Lucky Luke, un cow-boy dans le coton, c'est le titre, dans laquelle notre héros hérite d'une plantation et se retrouve donc confronté à l'héritage de l'esclavage et au Ku Klux Klan. C'est pas facile à dire, ça. Au KKK. Mais Lucky Luke, c'est aussi ça.
Je suis seule ce soir avec mes rêves.
Et là, je vois vos têtes, vous voyez pas le rapport. Non, hein, pas c'est là, ça, non. Pas du tout. Ouais. Et bien pourtant, qui, ça, cette chanson de Lucienne Delisle, Je suis seule ce soir, c'est celle qui a inspiré à Maurice la chanson pour Lonesome Cowboy, comme il l'avait raconté à Libération en 97, car sa logeuse de l'époque à Bruxelles, elle la chantait. Et pour compléter le tableau, elle fumait beaucoup et elle avait les jambes arquées. Ça vous rappelle rien? Son cowboy, pauvre cowboy solitaire, le générique de Lucky Luke ici interprété par Pat Woods.
Et je recommande la lecture de cet album que j'ai eu la chance de lire en exclusivité.
C'est vrai, vous l'avez récupéré.
Ouais, enfin, on l'a prêté pour que je le lise, j'ai rendu. Mais il est remarquable.
Il est bien.
Ouais, et alors à la fin, il y a une des bulles qui est extraordinaire.
Voilà. Ouais, c'est tout, on n'en dit pas plus. Un cowboy dans le coton. Elle était bien cette info pour briller au dîner avec Céline Landreau à 19h31.
Allume la lumière.
Quand un expert nous ouvre les portes du savoir.
Et ce soir, comme nous, vous avez peut-être besoin d'un éclairage sur toutes ces histoires de vaccins contre le Covid. Cet été, les Russes ont annoncé qu'ils en avaient trouvé un.
Vladimir Poutine avait même dit qu'il avait fait vacciner sa fille.
D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles depuis. Les Chinois auraient, eux, commencé cette semaine une vaccination de masse. En France, on nous dit, oulala, pas avant l'année prochaine. Bref, on a vraiment besoin d'y voir plus clair et on espère y arriver grâce à vous. Bruno Lina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique. Alors dites-nous, professeur, ça devait pas être un effort mondial, tout le monde main dans la main pour trouver un vaccin? Parce que là, on a un peu l'impression que chacun fait ce qu'il veut, que ça tire dans tous les coins, on est un peu perdu. Éclairez-nous.
Alors en fait, il y a effectivement un effort mondial, hein, puisqu'il y a quand même pratiquement 200 projets de vaccins qui sont en cours. Il y en a une dizaine pour lesquels on est en phase 3. Et alors c'est extrêmement opaque en Russie, puisqu'on ne sait que très peu de choses à la fois sur le nombre de personnes qui ont pu être vaccinées, quel est le stade de l'évolution du vaccin, où en sont les résultats de la tolérance et de l'immunisation. Sur la Chine, il y a deux vaccins qui sont en cours d'analyse et ils ont commencer à faire de la vaccination avant d'avoir les résultats des essais de phase 3, ce qui aujourd'hui serait impossible en Europe et dans la plupart des pays d'ailleurs. Et c'est là où il y a effectivement un peu de politique qui se mène à la vaccination, ce qui n'est pas très bon.
C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire d'utiliser un peu des cobayes humains, d'après ce que j'ai compris, pour sauter des étapes. Si jamais ça marche, est-ce qu'on peut suivre leur modèle ou pas du tout ? De vaccination?
Non, c'est pas raisonnablement, ce serait pas possible de faire en France et dans la plupart des pays ce qui est proposé aujourd'hui en Chine ou en Russie. C'est-à-dire que dans les phases d'évaluation d'un vaccin, on doit passer à travers différents stades, la phase 1, la phase 2, la phase 3, et à chaque fois c'est ce qu'on appelle un go-no-go. En fonction des résultats, on continue ou on s'arrête. Et normalement, on fait ces phases les unes après les autres. Et là, on essaye de faire superposer un certain nombre de ces phases de façon à ce que le développement du vaccin soit beaucoup plus court.
Alors, aux États-Unis, on voit qu'il y a deux laboratoires, Pfizer et Moderna, qui ont déjà demandé une homologation pour la fin novembre. Ça veut dire qu'ils ont pratiquement fini leur phase 3, que ça y est, ils sont prêts ?
Alors, en fait, ils essayent de gagner du temps. Cette phase 3 n'est pas tout à fait terminée, mais ils posent ce qu'on appelle un pré-dossier qui peut permettre d'aller plus vite lorsqu'ils auront l'ensemble des données sur les 30 et 40 000 personnes qui ont été incluses. Ils n'auront plus qu'à rajouter cette information dans le dossier et la partie administrative aura été faite auparavant. Donc, c'est vraiment purement administratif, là, pour le coup. C'est pas critiquable.
Aujourd'hui, au-delà des mesures qui sont prises actuellement pour freiner la propagation de l'épidémie, on nous explique que le seul salut, c'est le vaccin. Raisonnablement, d'après ce que vous nous dites, on ne peut pas l'espérer avant le début de l'année prochaine, au mieux.
Ah oui, c'est le délai le plus court qu'on puisse avoir, le début de l'année prochaine, peut-être même le milieu de l'année prochaine, parce que c'est toujours pareil, vous savez, on dit qu'on a un vaccin, mais après il faut vacciner les gens. Cette vaccination, elle se fait avec deux doses, ces deux doses se font en général à plusieurs semaines d'intervalle, et l'immunité n'est obtenue qu'une à deux semaines après la deuxième dose. Donc on voit bien que entre le moment où on injecte la première dose et le moment où la personne est vraiment protégée, il va déjà se passer un mois et une semaine à peu près.
Et ça, c'est impossible aujourd'hui de connaître un délai pour cette immunisation collective? On n'a aucune
elle
idée.
Elle n'en
de...
peut plus, Céline.
En calendrier.
Exactement, en calendrier.
Je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire, oui, c'est quand on aura 65% de personnes immunisées, soit par la vaccination, soit parce qu'elles ont eu l'infection. Vous dire quand ça arrivera dans l'année prochaine, je ne sais pas. Mais on espère en tout cas qu'avant la fin de l'année prochaine, on sera arrivé à cet objectif.
Bon, en tout cas, on n'est pas prêt de sortir sans masque. Je vous remercie beaucoup, Bruno Lina, professeur de virologie au CHU Lyon et membre du conseil scientifique, d'avoir allumé la lumière ce soir.
Merci à vous.
À suivre dans On défait le monde.
Une histoire sur Pelé, le loser de la semaine, et on ira aux États-Unis. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
Après concertation, on va ponctuellement appeler ça l'info pour briller au déjeuner.
Ah oui, c'est bien. Oui.
C'est l'actualité, 19h37, c'est la deuxième ce soir. Tout à l'heure, c'était Luc et Luc avec Céline. À présent, c'est Laurent et Pelé.
Oui, aujourd'hui, Edson Arantes do Nascimento.
Bien.
Ouais, bel accent. Dit le roi Pelé, fête ses 80 ans, c'est le plus grand footballeur de l'histoire, ça vous le savez.
Non.
Tout le monde, tout le monde connaît la star brésilienne. 1280 buts marqués, seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde, un CV hallucinant. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que Pelé n'était pas le premier surnom du footballeur. Il est d'abord surnommé Dico par sa famille, en référence à son premier prénom, Edson. Ah. Et à l'âge de 3 ans, c'est là où tout va changer pour le joueur. Pour vous faire un petit peu l'histoire, il s'amuse sur un terrain avec le gardien de but du Vasco de Gama qui s'appelle Billet. Et dans le feu de l'action, son père l'entend crier à chaque fois « Pilé !» quand il s'adresse au gardien. Oui, j'ai bien dit « Pilé » au lieu de « Billé ». Oui, parce qu'il n'arrivait pas à prononcer le nom correctement. Et à force, Pilé se transformera en Pelé, un surnom qui a toujours suivi le numéro 10 légendaire de la CLSAO. Et même, allez, un petit bonus pour vous Stéphane, lors des matchs de rue, il enrageait à chaque fois que ses adversaires criaient Pelé. Il le prenait même comme une insulte.
Allez bien cette info, qui le savait autour de la table, franchement,
Pourtant on est tous un peu ballons.
On ne savait pas, on a appris quelque chose ce soir. 19h38.
RTL. Le loser de la semaine.
Qui est le grand perdant, le loser de la semaine? Qui aurait mieux fait de rester caché au fond d'une grotte, hein? Sur quelle bête déjà blessée Céline a-t-elle décidé de s'acharner avec délectation? Eh bien ce soir, vous nous parlez d'une star de la télé qui aurait préféré ne pas être filmée, c'est un comble.
Oui, un habitué des plateaux de CNN. This is CNN. Vous connaissez, qui a fait les grands titres de l'actualité aux États-Unis.
Jeffrey Toobin was suspended for masturbating on a Zoom call.
Ah oui, les plus anglophones d'entre vous auront compris. Le journaliste Jeffrey Toobin a été suspendu par son employeur The New Yorker et par CNN, chez qui il était consultant régulier, après une réunion Zoom, disons, mal négociée. Alors qu'il était en visioconférence, il a été surpris par ses collègues en train de se masturber.
Je ne comprends pas.
Vous ne comprenez pas, mais les collègues non plus n'ont pas compris. Il pensait, lui, être hors champ, raté. Il est aussitôt devenu la risée des réseaux sociaux, certains parodiant cette réunion avec la réaction supposée des collègues.
Oh my god.
Alors certains rient, des collègues, d'autres sont assez sidérés. Exactement, oh mon dieu. Des collègues sidérés devant l'accident et ce nom de plus dans la liste des losers du Zoom. Car Jeffrey Toobin n'est pas le premier. Le mois dernier, lors d'une session parlementaire virtuelle en Argentine, l'élu Juan Emilio Améry, apparemment pas passionné par l'avenir de la sécurité sociale dans son pays, était filmé en train d'embrasser la poitrine d'une femme assise tout près de lui. La session a été interrompu, le parlementaire suspendu quelques jours. Il a expliqué qu'il ne faisait que demander à sa compagne comment elle se sentait avec ses nouveaux implants mammaires et que c'était pas sa faute, c'était la faute de la connexion mauvaise dans le centre du pays. Il pensait donc qu'elle était coupée. D'autres assument un peu plus, c'est le cas de Luke Flanagan, parlementaire irlandais, qui a participé en slip à une réunion virtuelle d'une commission du Parlement européen assez détendue. Voilà, là c'est lui qui parle. Il s'est pas rendu compte qu'il avait raté son cadrage. Il est donc assis, chemise noir, cuisse à l'air. Alors, son explication à lui, c'est qu'il venait d'aller courir. Il était en t-shirt et donc il a enfilé une chemise pour être plus respectable. J'ai vraiment réussi mon coup, avait commenté Flanagan sur Twitter. Alors, à l'heure où le gouvernement Jean Castex, encore hier, recommande toujours plus de télétravail, un petit conseil, si vous avez des choses un peu personnelles à faire, pensez à couvrir votre webcam.
Alors, moi, j'allume jamais la caméra.
Ouais, c'est plus prudent.
Ouais,
c'est
on en fait des zooms ici aussi, mais toujours en caméra fermée.
C'est la prudence de Cyprien Ciné. Ouais. J'imaginais Alba Ventura dire Good morning Jeffrey Toobin. Une interview le matin sur RTL. 19h41, c'est l'heure du cadeau, bien sûr.
L'instant que vous attendez tous.
livre de Monsieur Cadeau.
Le cadeau de Monsieur Cadeau, notre réalisateur Greg Caranoni. Alors vous avez gagné quoi pour nous cette semaine, Greg?
Oula.
Oula, problème de musique.
Oui, c'est pas grave.
Voilà, ça va mieux. Écoutez,
ce qui fait tout en même temps, pour expliquer à nos auditeurs. Il s'occupe de la musique, il parle dans le micro, il cherche des cadeaux, enfin c'est terrible.
Quand vous écoutez On défait le monde, vous savez que le week-end commence. Et grâce à notre jeu, vous savez comment le week-end se finit. Car avec weekendesk.fr, le spécialiste des week-ends made in France, il vous offre aujourd'hui deux nuits pour deux personnes à Cannes, à l'Eden Hotel Spa. C'est un sublime 4 étoiles, idéal pour décompresser. Il se situe à quelques pas de la Croisette. Ce séjour comprend un accès au spa et une balnéothérapie de 30 minutes par personne. Alors pour profiter de cette bulle de bien-être offert par Weekend Desk, il faut répondre à cette question.
Oh là là, il y a du travail sur l'écriture. Alors la fameuse question. Céline, vous parlez tout à l'heure du dernier album de Lucky Luke qui vient de sortir. Comment s'appelle le cheval de Lucky Luke? Est-ce que c'est Caramel? Parce qu'il y a toujours un cheval qui s'appelle Caramel.
Mais où ça?
Bah, je sais pas, dès que vous allez dans les centres équestres, il y a toujours un truc qui s'appelle Caramel. C'est mon expérience personnelle.
Ah bon?
Est-ce qu'il s'appelle Jolly Jumper ou est-ce qu'il s'appelle Bernard? Et on en profite pour saluer tous les Bernards qui nous écoutent. Est-ce qu'il s'appelle Caramel, Jolly Jumper ou Bernard? Vous avez la bonne réponse. 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants et on passera un coup de fil au vainqueur. Je vous rappelle un magnifique week-end à Cannes, un hôtel à Cannes 4 étoiles à gagner. Caramel, Jolly Jumper ou Bernard, comment s'appelle
ce
le cheval de
Lucky Luke? Ce serait bien que ce soit Bernard qui gagne ce soir.
Ah ouais, j'adorerais. Ce serait trop chouette, ce serait parfait. Non mais Caramel, vraiment? Vous en avez croisé?
Ah ouais, alors j'ai pas fait beaucoup de cheval dans ma vie. Hein,
c'est ce qui explique cela.
Mais quand j'étais petit, j'ai dû en faire deux ou trois fois.
Vous avez des souvenirs de ça?
Caramel. Et alors, même ma fille, si vous voulez, je l'emmène faire du poney, parfois des tours de poney, comme ça, dans les endroits, dans la rue.
Ouais. Dans la rue.
Faire du poney.
C'est dans
le monde
merveilleux, Cyprien Sini, les poneys.
Dans les parcs, parfois on peut louer le poney, la fin du tour. Il y en a un qui s'appelle Caramel, c'est pour ça que j'ai pensé à ça.
Allez, voilà. Le cadeau au 3210, 3210, bonne chance à vous tous.
RTL Soir, on défait le monde.
19h43 ce vendredi, le billet retour quand on vous donne des nouvelles d'une info qui a fait la une et dont on ne parle presque plus.
Hein. Et ce soir, en l'absence de Brice Dugénie, pour faire ce billet retour, on prend l'avion direction les États-Unis.
RTL Evening, live from Arizona, Lionel Gendron.
La légende George Lang pour annoncer Lionel Gendron. Lionel Gendron, l'un de nos correspondants RTL aux États-Unis. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Cyprien, bonsoir à tous. Oui, ça en jette hein, le jingle.
Ah,
oui,
c'est bien
l'impression.
Ça.
Hein.
C'est la classe. Il fallait bien ça pour vous accueillir. Alors, bon, vous sillonnez le pays, vous êtes en ce moment en Arizona et ce soir, avec vous, on a voulu faire un point sur l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. Souvenez-vous, en avril, mai et juin, vu de France, on regardait le pays un peu interloqué.
Nous avons l'impression que la pandémie aux États-Unis est tout simplement hors de contrôle.
Pays déjà le plus endeuillé de la planète, un nombre record de cas de coronavirus.
Les files d'attente s'allongent pour des tests.
Et alors aujourd'hui, l'Europe est en pleine deuxième vague. Et on en est où chez vous aux États-Unis, Lionel?
Alors, ça ne s'arrange pas du tout, hein, puisqu'hier, le pays a compté 73 000 nouveaux cas. C'est un nombre au plus haut depuis le mois de juillet. La Maison-Blanche vient d'ailleurs d'exprimer son inquiétude. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé au monde avec 223 000 morts. Alors, il n'y a jamais eu de confinement strict comme en France, hein, ni de couvre-feu, mais la vie et l'activité sont au ralenti. C'est frappant surtout dans les grandes villes comme New York. Alors, les règles varient entre les États, les comportements aussi, mais le masque est obligatoire dans presque tous les espaces clos. Et on peut en ce moment aller au restaurant, pas seulement aux terrasses, mais ça pourra évoluer si les chiffres s'affolent, bien évidemment.
Alors forcément, cette actualité coronavirus, elle se heurte à une autre actualité. L'élection présidentielle, c'est dans 11 jours. Est-ce que ça va et est-ce que ça peut se jouer sur cette crise sanitaire et notamment sur la gestion du coronavirus par Donald Trump?
Alors, en grande partie, oui. Hein. Hier soir, c'était d'ailleurs le thème, le premier thème du débat présidentiel. Alors, on s'en souvient pas, mais avant la crise sanitaire, ça allait très bien pour Donald Trump. Les voyants économiques étaient au vert, 3,5% de taux de chômage. J'ai retrouvé hier un article qui date de février dernier. Alors, je vous lis juste les deux premières lignes. Acquitté dans son procès en destitution, fiasco des primaires démocrates en Iowa, opposition divisée, Donald Trump semble avoir un boulevard devant lui pour sa réélection. Il était alors à 49% d'opinion favorable, ce qui est très haut. 223 000 morts plus tard, il est en retard dans tous les sondages, 9 à 10 points en moyenne. Alors, il est pour rien dans l'apparition du virus, comme tous les autres chefs d'État, mais sa gestion erratique, voire catastrophique, lui joue forcément des tours. Il a caché son ampleur, ça a été démontré par des enregistrements du journaliste Bob Woodward. Il a parlé d'une invention des démocrates au début, il a dit que le masque, ça ne servait à rien, il a dit pourquoi pas utiliser du détergent pour soigner. Donc forcément, tout ça, ça joue. Il a beaucoup perdu dans les sondages chez les femmes et chez les seniors qui ont peur pour eux, mais aussi qui ne veulent pas que leurs enfants et leurs petits-enfants vivent dans un monde comme ça. Il a plus de 20 points de retard chez les seniors par rapport à Joe Biden. S'il perd, ça viendra sans doute de là. Alors, il a voulu jouer ces dernières semaines sur le fait qu'il avait vaincu la maladie. Ça n'a pas fonctionné. Et des projections estiment qu'on atteindra les 300 000 morts en décembre aux États-Unis. On y va et assez vite.
Et alors, il y a désormais un duel avec le docteur Fauci, le monsieur coronavirus aux États-Unis. La guerre avec Donald Trump, alors au départ, elle était larvée. Là, elle est ouverte.
Oui, c'est un combat que Donald Trump a tort de mener parce qu'il va le perdre. Anthony Fauci, 79 ans, c'est le patron de la CDC, l'Institut des maladies infectieuses. C'est le conseiller des présidents depuis Ronald Reagan. Il est devenu un personnage incontournable. Lorsque Donald Trump faisait ses points presse quotidiens, il était à ses côtés, masqué. Souvent, il manquait de s'étouffer d'ailleurs. Lui aussi, il a un petit peu hésité au début. Il hésitait sur le port du masque notamment, car comme en France, il craignait une pénurie dans les hôpitaux. Et ça s'est envenimé, leur relation, la semaine dernière, quand l'équipe de campagne de Donald Trump a diffusé un clip avec ses propos du docteur Fauci.
I can't imagine that anybody could be doing more.
Je pense que personne n'aurait pu faire mieux, sous-entendu Donald Trump, que Donald Trump n'aurait pas pu faire mieux, enfin que personne n'aurait pu faire mieux que Trump en fait. Des propos sortis de leur contexte, car ils datent de plusieurs mois, et en fait, le docteur Fauci parlait du système de santé, pas du tout Donald Trump. Alors il n'était pas du tout content, du coup il s'est un peu lâché le week-end dernier dans l'émission 60 Minutes. On lui a demandé s'il a été surpris quand il a appris que Donald Trump était positif, notamment après la réception à la Maison-Blanche, vous savez, pour la nomination de Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Réponse du docteur Fauci.
Crowded.
Il y avait du monde, pas d'espace entre les invités et presque personne ne portait de masque. Quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit « Oh mon Dieu !» Alors, réponse de Donald Trump, qui n'est pas content de cette sortie. « De toute façon, c'est une catastrophe, dit-il. Le docteur Fauci, ça fait 500 ans qu'il donne des conseils. Si je l'avais écouté, on serait à 800 000 morts. De toute façon, c'est un démocrate. » En tout cas, il est adulé par les adversaires de Trump. On vend même en ce moment des t-shirts et des mugs à son effigie.
Et le Covid, c'est aussi une façon d'aborder la fracture des États-Unis jusque dans les comportements quotidiens.
Oui, alors depuis 10 jours, je suis en reportage dans le sud des États-Unis. Ce qui est assez fou, c'est que le comportement est totalement différent selon l'appartenance politique. On le savait, mais c'est quand même assez frappant quand on le vit. Hier, par exemple, je faisais une interview avec un démocrate, un responsable démocrate à Phoenix. Il mettait tellement de distance entre nous que même avec la perche, j'avais du mal à capter le son. En revanche, avec les républicains, en tout cas les trumpistes les plus convaincus, alors là, le Covid n'existe pas. Dans son meeting en Floride, où j'étais il y a une semaine, il n'y avait pas une personne masquée sur 10. Beaucoup même vous serrent la main. Alors la première fois, je me suis fait avoir parce que c'est pas forcément évident de refuser une main tendue. Il y a une forme de défi dans ce geste aussi. C'est une façon de dire on ne se laisse pas dominer par le virus, comme le dit leur chef. Le virus qui effectivement n'a pas dominé Donald Trump médicalement, il le fera peut-être électoralement.
Merci Lionel Gendron depuis les États-Unis pour ce billet retour ce soir, ce gros plan et grand format tout en direct depuis Phoenix, Arizona. 19h49 arrive la troisième info pour briller au dîner. Et une histoire de tic-tac, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au déjeuner.
C'est la troisième ce soir, et Luc et Céline avec Pelé et Laurent. Vient le tour de Cyprien sur le changement d'heure.
Oui, ce week-end on change d'heure, mais est-ce que vous connaissez le point commun entre le changement d'heure justement, le paratonnerre, les lunettes à double foyer et le Gulfstream?
Pas là, non.
Eh ben, c'est une idée, à chaque fois, de Benjamin Franklin. Oui, le célèbre inventeur américain, père fondateur des États-Unis, qui est le premier, en 1784, à avoir proposé ce changement d'heure pour faire des économies. Il avait écrit dans une lettre, envoyée et publiée par le Journal de Paris, sauf qu'à l'époque, c'était pas pour économiser de l'électricité, mais de la cire de bougie. Et parce qu'on s'allumait la bougie. Il n'avait pas été suivi, mais l'avenir lui a donné raison, puisque bien des années plus tard, son idée a été reprise dans le monde entier.
On s'éclairait à la bougie, non?
Oui.
J'ai dit quoi?
On s'allumait à la bougie.
Ouais, on peut s'allumer à la bière.
Ouais, ouais, ça marche. Vous savez, chez Signy, on fait des trucs particuliers.
Ouais, voilà, je trouve qu'elle pinaille. Hein.
Non, mais merci, Céline Landreau.
19h52.
Marche ou rêve?
Marche ou rêve, c'est votre moment, bien sûr, celui où l'on met en avant vos projets, vos initiatives.
Et ce soir, nous allons prendre des nouvelles de l'un d'entre vous. L'initiative, vous avez beaucoup plu, on en avait parlé notamment sur nos réseaux sociaux il y a quelques semaines, Laurent.
Oui, souvenez-vous, il y a 3 semaines, nous avons présenté le Loto Drive en plein air qui se passe sur un parking d'un supermarché à Pleurtuy en Ille-et-Vilaine. Alors, on rappelle le concept, hein, des voitures qui se regroupent, chacun reste dans son véhicule pour jouer au loto, Covid-19 oblige, et l'animateur donne les bons numéros avec une sono. Dès que vous avez gagné... Et ben vous klaxonnez.
Ah, on a trouvé l'idée géniale.
C'était super. Son organisateur, Brice Guadin, est de nouveau avec nous. Bonsoir Brice.
Bonsoir, merci de me recevoir à nouveau.
Et depuis votre passage dans l'émission, les inscriptions se sont envolées.
Oui, on vous reçoit parce que ça a cartonné en fait. Voilà.
Ah bah ça, oui, c'est la deuxième édition, la deuxième édition a bien bien cartonné. On a fait 150 véhicules, près de 400 personnes. Et puis c'était surtout une date anniversaire pour nous, parce que normalement on aurait dû le 18 octobre avoir le festival international de magie et de grande illusion, le Magic Show de Saint-Malo. Et comme beaucoup d'événements, bien sûr, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc on s'est replié sur ce loto drive, sachant qu'on faisait habituellement des lotos, mais les salles étaient fermées.
Et est-ce que suite à votre passage dans l'émission, il y a eu plus d'inscriptions? On se demandait. Ah, me dites pas non, sinon on est mal. Hein.
Sincèrement, ouais. Le téléphone, l'animateur qui nous anime le loto m'a appelé en me disant ça s'envole, les inscriptions s'envolent. et là, donc, on en a reprogrammé un et la moitié a déjà été remplie en quelques heures. Puisque vous l'aviez annoncé. Alors le prochain, c'est le dimanche prochain, le 1er novembre.
Mmh. En plus, c'est
fermé. Et on a déjà le 1er novembre, ouais, c'est la fête des morts, mais nous, on reste bien vivants.
Vous allez rajouter une petite innovation, Brice, en plus.
Alors on s'est dit que vu que c'était le dernier, c'est notre troisième et dernier loto de l'année, on s'est dit qu'on allait offrir à tous nos participants un cadeau. C'est-à-dire qu'après le loto drive, on va faire, juste avant que ça démarre, pendant une heure, un concert drive. Donc sous le parking de Super U, un concert drive avec un duo électro-sax qui s'appelle Phil Wood et DJ B. Donc qui est tout à fait novateur aussi. Donc on continue dans le côté
et
novateur.
Brice, les joueurs doivent toujours garder les fenêtres de leur voiture ouvertes ou pas, parce qu'il commence à faire un peu froid?
Alors on a de la chance, on a quand même, avant de le programmer, on a quand même regardé la météo et on a un peu l'été indien nous ici, près de sur la côte. C'est pas pour être chauvin, hein, mais les températures sont les mêmes, il n'y a pas de vent, donc la première fois ça s'est bien passé, donc il devrait pas y avoir de soucis. Et là on a mis le paquet sur le son, on a notre partenaire Wave qui nous a amené vraiment 300 kilos de sonorisation, donc on a testé la dernière fois, on est au top.
Et là je dis Keen. Écarte en plein. Ouais, ça veut dire qu'on klaxonne. Voilà.
Ça sera le dimanche 1er novembre, si on a bien retenu le prochain.
C'est formidable. Ça, dimanche 1er novembre.
On adore, on vous suit bien sûr. Merci à vous, Brice, de nous avoir accompagnés dans ce marche au rêve.
Et régulièrement, on prendra des nouvelles de gens qu'on a eus, qui ont pris des initiatives pour savoir un peu où ils en sont, pour savoir comment ça marche. Comme ça, c'est formidable.
On a Manuel qui est en ligne à 19h55. À bientôt, Brice. On est pris par le temps.
Merci, à bientôt.
Bonsoir, Manuel.
Bonsoir à tous.
Alors Manuel, vous êtes...
Gagnant du soir. Hein.
Voilà, exactement. La question du jour, rappelle comment s'appelle le cheval de Lucky Luke? Bernard, Jolly Jumper ou Caramel?
Bah désolé, je m'appelle pas Bernard, mais je vais opter pour Jolly Jumper.
Et vous avez bien fait, bravo. Bon, on réitère nos excuses au Bernard, hein, qu'on adore. Et
vous
bravo,
êtes où Manuel? Vous êtes où Manuel, en France?
Je suis dans la région lyonnaise, à une trentaine de kilomètres de Lyon, dans le Beaujolais, tout simplement.
D'accord, ce sera Cannes, donc le cadeau, super cadeau du soir.
Oui, un hôtel 4 étoiles, hôtel et spa à Cannes, à deux pas de la Croisette. Vous allez pouvoir vous faire chouchouter et oublier un peu les soucis et l'actualité anxiogène dans ce moment du moment.
On est ravis pour
et
vous, on vous salue.
J'en connais une qui va être très contente pour nos 40 ans de mariage.
Ah, 40 ans, bravo. On va pas être déçu du voyage. Hein.
Vous pouvez faire croire que vous avez fait le cadeau tout seul, si vous voulez, on dira rien.
On en verra dans le podcast.
À bientôt Manuel, merci de votre fidélité,
merci
profitez
vous,
bien, merci du coup de fil.
Et merci pour votre ambiance, à bientôt.
Vendredi
merci.
Prochain, ce sera la même ambiance. Encore mieux, c'est promis, avec toute l'équipe, Cyprien, Laurent, Céline, le retour de Brice, et puis Greg aux manettes.
Le résultat de l'info,
c'est vous, Laurent. C'est vous, c'est
Paulé qui a gagné.
Je rejoins Brice du génie au classement, c'est beau.
C'est la seule personne qui tient en compte le classement.
Le podcast de l'émission, très très vite, c'est promis. À bientôt, les amis, dans un instant, le football.
Oui, c'est Garou, oui.
T'es sûr, là, Garou?
C'est pour Laurent, ça lui faisait plaisir.
Ça va bien, je fais un duo avec Céline Dion sous le vent.